Chers amis de Radio Courtoisie, comme vous m'avez manqué. Avec l'arrivée des rois mages en janvier, je voulais vous présenter mes vœux, mais la neige a recouvert toute la région parisienne et j'ai dû me soumettre aux recommandations des autorités et je suis restée chez moi. J'ai transmis mes vœux aux étoiles pour qu'elles nous guident sur le bon chemin, comme elles ont guidé les rois mages. Et, pardon, en février, alors que j'allais prendre mon train, j'ai fait une chute dans les escaliers mécaniques de la gare de Lyon, ce qui m'a valu 3 côtes fracturées, et de nouveau, j'ai dû renoncer à l'émission. Alors, chers auditeurs, ça fait réfléchir. On croit pouvoir diriger sa vie et Dieu en décide autrement. Il y a une part d'orgueil qui est toujours là et qui insidieusement s'infiltre dans nos comportements. Il reste à trouver où est la juste humilité. Laissons-lui la place durant cette période de carême et avec la force de la foi, laissons agir en nous l'Esprit qui sanctifie toutes choses. Alors ce soir, chers amis, je reçois un homme de lettres, un écrivain, un romancier couronné de nombreux prix littéraires, et c'est Richard de Sèze qui me l'a fait connaître. Son dernier livre m'a particulièrement touché. Il est là dans le studio. Bonsoir, monsieur Étienne de Montetti.
Bonsoir.
Votre livre est un roman, mais il semble être un récit. Le récit de quelque chose que vous nous racontiez comme ça, mais qui s'est vraiment passé. Ça semble être une histoire vraie. Alors, qu'en est-il ?
Un roman, c'est à la fois une histoire vraie et une histoire inventée. Il y a des choses vraies, des choses qui appartiennent à mon histoire, des choses qui appartiennent à des gens que j'ai rencontrés, et puis des choses que j'ai inventées. C'est tout ça, un roman. C'est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus intéressant qu'un seul témoignage qui ne s'intéresse qu'à une histoire particulière. Là, j'ai agrégé de nombreuses histoires que j'ai pu découvrir et qui m'ont intéressé et que j'ai reconstitué dans mon esprit pour en faire un roman qui est une aventure singulière, celle d'un jeune homme d'origine maghrébine qui va faire tout un chemin intellectuel et spirituel. Voilà, il n'existe pas en tant que tel, mais il est l'agrégation de très nombreuses expériences qui m'ont été partagées.
Une sorte de patchwork.
Oui, c'est ça, mais ce que doit être un roman.
Oui.
Dans un roman, un écrivain va mettre ce qu'il sait, ce qu'il imagine, ce dont il se souvient, et il doit rendre quelque chose qui n'est pas vrai, vraisemblable. Et donc, on doit y croire, et si vous y croyez, c'est que le roman est réussi.
Et alors, en tout cas, moi, j'ai mis le nez dedans, on est tout de suite accroché, et on ne décroche pas.
Ah ben écoutez, c'est un compliment que vous me faites.
C'est un moment palpitant parce que on essaie de comprendre ce qui arrive à ce jeune homme. Alors le titre de votre roman, il y a une autre rive et c'est édité chez Stock. Je vais même dire le prix pour les auditeurs, 20,50 €. Voilà. Eh bien, ce livre se lit donc fort agréablement. Donc, c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit en France, qui est maghrébin d'origine. Ses parents, sa mère est maghrébine, elle aussi, son père aussi. Et sa mère est tout à fait intégrée dans la vie parisienne. Ils vivent en banlieue, je crois.
Oui, aux portes de Paris, oui.
Aux portes de Paris. Elle travaille, je crois, dans une école.
Oui, c'est un établissement scolaire, oui.
Et puis, le papa, lui, il est taxieur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un taxieur ?
Taxieur, c'est l'argot d'Alger pour dire un chauffeur de taxi. Mais c'est un joli mot, c'est une jolie création linguistique que j'ai reprise à mon compte.
Il y a beaucoup de créations linguistiques dans votre...
J'aime beaucoup les mots, donc dès que j'entends un mot qui me plaît, je l'utilise.
Ah, il y a beaucoup de mots qui viennent du Maghreb aussi, puisque... Alors, un taxieur, je trouve que c'est un joli mot, effectivement. Oui. Alors, ce jeune garçon, il ne faut pas qu'on raconte tout en détail. Il faut quand même laisser le lecteur découvrir toute l'histoire. Mais ce jeune homme est un petit peu en quête. Il est enfant, il est comme tous les enfants. Mais il va se passer un drame dans sa vie, c'est que ses parents vont se séparer parce que le taxieur a fait une mauvaise rencontre.
Oui, oui, en effet, c'est un garçon qui a du mal à s'unifier. Pour reprendre l'image des rives, il sent qu'il y a plusieurs rives. Il y a la rive de son père et la rive de sa mère. Son père, effectivement, va se ré-islamiser. Par un de ses collègues taxi, et finalement ses parents vont se séparer parce que sa mère, la mère de mon personnage qui s'appelle Halima, elle est résolument laïque
et ne supporte pas les contraintes,
et elle ne supporte pas que la religion intervienne dans la vie de famille et dans sa vie à elle de femme. C'est un caractère fort et indépendant, et donc ce couple se sépare, ce qui est une déchirure pour ce garçon qu'on appelle Arman. De rive aussi parce que, sans trop anticiper, il travaille dans l'univers du numérique. Et là aussi, il y a une sorte de dissociation entre le monde réel, celui dans lequel vit ce personnage, et puis le monde numérique dans lequel il travaille. Un monde dans lequel il est d'abord très à l'aise, qu'il passionne, qui est un monde très stimulant, mais qui, au bout d'un moment, le fatigue, et puis aussi lui donne le sentiment d'une déshumanisation.
Et ça, il n'en a pas conscience tout de suite.
Il n'en a pas conscience tout de suite.
Enfant, il est un petit peu accro
aux jeux vidéo, comme les jeunes de sa génération.
Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien ce qui se passe actuellement. C'est très actuel, je trouve, votre livre. Oui. On voit vraiment ce qui se passe pour les jeunes enfants qui perdent pied. C'est-à-dire qui commencent à vivre dans un monde parallèle.
Oui, qui
devient leur univers.
Qui est fascinant, qui est stimulant pour eux, et qui finalement se substitue à leur vraie vie.
Moi, j'ai beaucoup apprécié votre plongée dans cet univers où les enfants se perdent un peu, s'excitent, découvrent beaucoup de choses.
Oui. Et c'est le monde d'aujourd'hui qui nécessite évidemment une pédagogie, qui nécessite des barrières, qui nécessite qu'on apprenne à apprivoiser ce monde qui est là. Évidemment, oui, il est là, il existe.
C'est une école pour les parents d'apprendre.
Et donc pour les parents, voilà, une école de confiance aussi entre les parents et les enfants. Et donc ce garçon, laissé un peu à lui-même par sa mère qui travaille beaucoup, son père qui est absent, après avoir été encore une fois très fasciné par cet univers où il a pu penser qu'il allait apprendre des choses, s'est retrouvé dans une sorte de malaise lié à l'entrée dans le monde adulte, à ce déchirement qui est celui de sa famille, une famille immigrée.
Une déstabilisation.
Mais une déstabilisation culturelle, une déstabilisation du fait du divorce de ses parents et de l'absence donc de ce père. Et donc voilà, ce garçon, je ne m'étais jamais beaucoup posé de questions, qui tout d'un coup se met à douter. Pourquoi ? Parce que le monde numérique qui l'a tant fasciné, avec lequel il était tellement à l'aise, en fait est un monde dont le développement est illimité. Et s'il a pu facilement comprendre et appréhender un certain nombre de nouveautés de sa génération, la suite le perd à son tour. Autrement dit, l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, où tout d'un coup, il réalise que c'est un continent sans fin, et il décide de rompre avec ce milieu-là pour se réenraciner dans quelque chose, il ne sait pas bien quoi, pour retrouver quelque chose d'humain.
Vraiment, lorsque à la lecture, on plonge avec lui dans cet univers.
Et oui, parce que vous l'avez un petit peu exploré.
Vous avez dû l'explorer.
J'ai vu ce mélange d'ivresse de la part de jeunes gens très intelligents qui comprennent très très bien.
Très vite.
Et très vite, comment ça marche et ce qu'on peut faire avec tout cet incroyable univers numérique. Et puis aussi les questions existentielles que ça pose. De voir,
et ça, c'est dans un deuxième temps.
Oui.
Parce que le premier temps, on est aveuglé par
tout à fait.
C'est féerique.
Oui, en quelque sorte. C'est féerique. Mais ça, quand on est extérieur, comme j'ai pu l'être avec cet univers, on voit des gens très isolés, par exemple. Chacun travaille de son côté, derrière son ordinateur. Il n'y a même plus besoin d'être dans un même bureau. Donc, il y a la vie sociale. Mmh. Du monde du travail n'existe plus.
Ce qu'on appelle le distanciel.
Le distanciel ou en...
Ou le présentiel, quelquefois.
Oui, ou puisqu'on est sur une radio qui est la langue française, le full remote. C'est-à-dire...
Attention, parce que Radio Courtoisie...
Je sais, c'est pour ça que je souris en prononçant ce mot. C'est-à-dire des gens qui sont chacun chez soi et en discussion par la visioconférence, par les emails, et donc la communauté humaine n'a plus d'importance. On peut travailler très naturellement avec des gens qui sont à l'autre bout du monde. Il suffit d'avoir les mêmes horaires.
Voilà.
Et c'est la réalité d'aujourd'hui dans des tas d'entreprises. Et beaucoup de gens semblent s'en trouver bien.
Et s'en grisent.
Oui. Sans forcément réaliser ce qu'ils perdent. Je ne dis pas que le monde du travail est toujours idyllique, mais ce sont des communautés humaines, avec des bons côtés, des mauvais, des gens sympathiques, des gens qui le sont moins, mais il y a une communauté humaine, on est des animaux sociaux quand même. Et là, il y a un éclatement, et c'est tout ça qui commence à peser à ce jeune homme, à ce jeune Armand, qui s'interroge face à la course sans fin.
C'est sans fin, c'est ça.
Qu'il découvre, parce que finalement, son entreprise est en train d'évoluer, et va rentrer dans de nouvelles réalités, les hologrammes aussi, la
capacité... Ah oui, ça c'est fascinant, le passage où vous parlez des hologrammes.
Voilà, où on peut représenter des silhouettes ou des personnages qui ont quasiment l'apparence de la réalité. Et je donne un exemple, c'est le groupe ABBA, le fameux groupe de pop des années 70, qui a reconstitué, alors que le groupe est maintenant dispersé, mais ses membres, qui sont très malins, ont refait un spectacle entièrement numérique et dans lequel on voit des silhouettes, les leurs, alors pas les leurs d'aujourd'hui parce que ce sont des septuagénaires, mais les jeunes gens qu'ils ont été danser comme si on y était. Et ce qui est tout à fait inouï, c'est que le public se précipite parce que c'est...
Le public est aussi fasciné.
Le public est fasciné.
Il a envie de voir ça.
Envie de voir ça. Et puis de retrouver à travers cette expérience-là sa propre jeunesse. Puisque ce sont des images.
Des émotions qui reviennent.
Ce sont des images d'il y a 40 ou 50 ans. Donc c'est assez sympathique. Mais tout ça est complètement illusoire. Et donc, mon personnage, Armand, prend conscience de caractère assez absurde de cet univers.
Alors on sait que c'est illusoire, mais on est heureux de vouloir rester un peu dans cet illusoire.
Oui.
Tout comme quand on nous raconte un conte de fées.
Mais c'est ça, c'est ça.
Et on sait que c'est un conte de fées, mais on veut y croire un peu.
Oui, mais le conte de fées, c'est bien quand ça s'arrête.
Oui.
Et ça prend la place de l'existence,
oui.
Tout d'un coup, on commence à souffrir. Et c'est le cas de ce garçon qui prend conscience que son métier, toute la vie que ça lui... fait mener, en fait, ne le comble pas du tout.
Oui, il voit plus clair, il devient très fatigué, il ne sait plus, il flotte.
C'est une sorte de dépression.
Et puis, enfant, il a eu contact avec la pornographie.
Oui, ça fait partie des mauvaises rencontres qu'on fait sur cet univers-là.
Ça doit le détruire aussi énormément.
Détruit. Ça fait partie du mal-être, c'est-à-dire un monde qui est celui de la sexualité, mais qui tout d'un coup n'est plus du tout dans la réalité, mais dans l'exacerbation irréelle, l'exacerbation caricaturale, scandaleusement blessante d'ailleurs pour le regard. Et ça pourrait prendre la place de la véritable rencontre entre mais, deux êtres et la place de l'amour, tout simplement.
C'est ce qui se passe pour beaucoup de jeunes.
Oui, oui, et c'est une addiction très lourde et très grave. Et c'est donc cet ensemble de symptômes qui fait que ce garçon, tout d'un coup, va prendre conscience que quelque chose ne va pas dans sa vie.
Pour revenir à une sexualité qui soit naturelle, ça devient un travail.
Oui, et ça laisse des blessures. Des blessures parce que ça souille le regard.
Ça coupe une relation.
Bien sûr.
On n'est plus avec quelqu'un tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait ou tel qu'on a pensé que on n'est pas dans le réel.
Exactement.
Donc il y a une soif de réel qui est...
Une soif de réel, de se réenraciner dans quelque chose, il ne sait pas bien quoi, mais il subodore que son histoire personnelle, évidemment, a quelque chose à voir avec ce malaise, puisque donc il est d'origine immigrée, et à la faveur de la... Pas à la faveur, mais du fait de la mort de son père, la mort accidentelle de son père en Algérie, il va retourner sur le lieu de ses racines, de son histoire familiale, pensant que c'est là...
Ça pouvait l'aider.
C'est là qu'il va retrouver ses origines, sa culture, sa famille. Et il va faire un voyage en Algérie.
À la suite du décès de son père.
Voilà. Donc, de l'autre côté, sur une autre rive, qui est celle de l'autre rive de la Méditerranée, qui est celle de l'Algérie.
Moi, j'ai apprécié beaucoup dans votre livre... On est un peu avec lui tout le temps. On vit un petit peu tout ça. C'est pour ça que c'est très, très attachant. Moi, je ne connais pas l'Algérie. Et là, j'ai l'impression d'être allé faire un tour en Algérie. Et je vous remercie pour ce voyage. C'est tout, avec le langage aussi. Le langage avec ces mots qui sont pas tout à fait du français.
Un pays francophone avec son argot, hein, on parlait tout à l'heure de taxieur, mais il y a des tas d'autres mots. C'est donc Alger est une ville où on parle un français savoureux, qui est celui de...
C'est tout à fait exotique.
De la rue, et qui est sympathique.
Coloré.
Voilà, et les Algériens, notamment ceux qui ont un certain âge, sont très très heureux de parler français, à plus forte raison, parce que les autorités algériennes... ne souhaitent plus qu'on parle français, interdit l'enseignement du français.
Oui, on met l'anglais.
Alors on met l'anglais, l'arabe, et ce sont finalement les anciens, ceux qui ont plus de 50 ans, qui sont extrêmement heureux de parler français, parce que c'est la langue de leur enfance, de leur histoire, de leurs parents, et aussi de leurs cousins qui habitent en France. Et ils sont donc, ils font un grand accueil aux Français.
Et on enseigne l'arabe, je trouve que c'est très bien, mais le kabyle ?
Alors, Alger, on parle plutôt arabe, en Kabylie, je pense qu'on parle plus le kabyle, je ne suis pas un spécialiste de la politique linguistique.
Je trouve que ça devrait être enseigné.
Oui, c'est un sujet en Algérie, hein, la place du kabyle, de la culture kabyle, du peuple kabyle en Algérie, oui, bien sûr.
On y pense très fort. Oui. Et justement, j'ai regretté qu'il n'y ait pas de... Il n'y a rien, il y a pas de, vous n'avez pas fait d'allusion à la Kabylie.
Ah non, 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 je suis resté. Il est originaire de Médiana, c'est-à-dire dans l'Atlas. Ça peut être Médéa.
À 1000 mètres d'altitude.
Voilà, c'est dans l'Atlas. Et donc, ce n'est pas tout à fait la région de Tizi Ouzou.
C'est à combien de kilomètres d'Alger?
C'est à une centaine de kilomètres, oui. C'est dans l'Atlas, dans la montagne, donc c'est tout à fait un autre univers qu'Alger, qui est un port ouvert sur la mer. C'est une autre mentalité, la mentalité montagnarde.
Oui, et puis c'est plus citadin, c'est la ville, la grande ville.
Oui,
encore.
La métropole où il y a toute la diversité d'une population, bien sûr.
Avec encore la cathédrale.
La cathédrale d'Alger, il y a l'ancienne cathédrale. Et qui est redevenue une mosquée, l'ancienne église Saint-Philippe, et puis l'actuelle cathédrale, qui est le Sacré-Cœur.
Notre-Dame.
Alors, il y a Notre-Dame d'Afrique, qui est une basilique. Notre-Dame d'Afrique est une magnifique basilique. Sur les hauteurs d'Alger qu'on visite. Et la cathédrale d'Alger, c'est une église assez moderne, qui représente un peu une tente du désert, et c'est le Sacré-Cœur, et c'est au cœur d'Alger.
J'ai eu l'impression d'y aller. Hein. Non, mais ça fait partie du charme de la lecture de votre livre, c'est que c'est à la fois, il y a une étude sociologique et puis là on fait du tourisme.
Oui, un petit peu. Vous savez, quand Pierre Loti écrivait,
ah oui.
Ou Albert Londres, ils écrivaient pour des lecteurs qui n'avaient jamais voyagé, jamais, et surtout qui n'avaient aucune idée des pays qui étaient décrits, parce que la télévision n'existait pas, la photo n'existait pas, ou peu, on ne lisait pas de magazine, et donc ils étaient obligés de décrire de manière assez minutieuse pour que les gens véritablement se représentent les pays décrits. Aujourd'hui, j'imagine que beaucoup de gens ont des images, en l'occurrence de l'Algérie. Il ne reste pas moins que pour camper un roman, pour lui donner ce vraisemblable qui est nécessaire, il faut quand même un tout petit peu installer son personnage dans un lieu.
Mais alors, vous êtes allé en Algérie ?
Je suis allé en Algérie, oui.
Vous pouvez nous en parler
de votre... un séjour dans un pays plein de paradoxes.
Il y a longtemps ?
J'y suis allé il y a 3 ou 4 ans.
Oui.
C'est un pays qui est, dont la population m'a fait un excellent accueil, alors même que les autorités algériennes multiplient les vexations, et on le sait assez, contre tout ce qui ressemble à la France.
Et notre otage.
Et voilà. En revanche, les Algériens n'ont pas du tout cet esprit-là, mais ils sont extrêmement accueillants. Il y a très peu de touristes, malheureusement pour eux, évidemment. Heureusement pour celui...
Vous dites une phrase, dans le livre, vous dites une phrase, on n'a pas besoin de touristes, puisqu'on a de l'essence. On a pas
oui, du pétrole et du gaz, pétrole. Oui, ils n'ont pas besoin économiquement de touristes.
Il le dit, vous avez un personnage
qui
le dit.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est donc un pays qui est très heureux d'accueillir les Français ou les Italiens qui viennent en promenade. Ils sont très accueillants. Moi, j'ai eu des...
Vous y étiez en vacances ?
J'étais en séjour pour les besoins de ce livre.
Ah oui,
mais,
le livre...
Vous voyez, quand on se promène dans le quartier européen où il y a de magnifiques immeubles art déco, avec des très belles entrées, avec des mosaïques, vraiment des endroits très très beaux, dans la rue, on me dit « ça vous intéresse de voir des entrées art déco ?» Je dis « oui ». On m'a emmené dans 2 ou 3 cours, un peu plus loin, pour me montrer, les beautés de ces immeubles. Et puis, une fois que la visite a été terminée, ça avait duré 10 minutes, on avait discuté avec mon guide, on s'est quitté, il n'y avait aucune arrière-pensée, on ne m'a pas demandé d'argent, quoi que ce soit, pas du tout. C'était le plaisir de la part de quelqu'un de faire découvrir à un visiteur de passage les beautés de la ville.
Vous êtes resté longtemps ?
Je suis resté 10 jours.
Ah oui. Et vous logiez chez des habitants ou chez...
Je logeais chez un ami.
Si mes questions sont... Si vous êtes libre de ne pas répondre à mes questions.
Ah non, pas du tout. J'étais chez un ami.
Je ne veux pas vous gêner.
Chez un ami expatrié qui m'a accueilli, qui était un homme qui travaillait pour une grande entreprise française et qui m'avait dit, tu verras, c'est un pays merveilleux, il y a des rencontres, des découvertes formidables à faire, et c'est ce que j'ai fait.
Et ça vous a marqué apparemment?
Oui, ça m'a marqué, d'autant que pour moi c'était un pays un petit peu idéalisé parce que mes parents y avaient vécu.
Ah oui.
Et que.
Ah, mais vous faites comme le petit Ahmed.
Arman,
qui retourne dans le pays de ses parents.
Oui, j'avais noté qu'il fallait que j'aille dans une rue d'Alger pour voir là où avaient habité mes parents. Et les habitants de l'immeuble ont été très gentils, m'ont accueilli, voulaient presque que. Pas presque, ils m'ont proposé de rentrer dans l'appartement en question. Vous voyez,
ah oui.
Ce qui n'avait pas beaucoup de sens. 60 ans après, mais tout ça était dans une sorte de bonne humeur et de gentillesse à laquelle j'étais très sensible.
Et vos parents sont toujours en vie ?
Ils sont toujours en vie.
Et qu'est-ce qu'ils en ont pensé ?
Ben écoutez, ça les a touchés que j'aille à Alger, parce qu'ils n'y sont jamais retournés, donc ils ont été très heureux, très stimulés de pouvoir parler avec moi de cette ville. Je leur ai montré des photos, on a comparé les souvenirs qu'ils avaient avec le présent, l'actualité d'Alger. Et ça a été un échange très, très sympathique qui évoquait pour eux, évidemment, un temps un peu ancien, mais qui correspond à leur jeunesse. Donc, c'était très agréable.
Ils étaient au temps de la France en, Algérie, où l'Algérie était encore française.
Oui, c'est ça. Et puis même un tout petit peu après, mon père est resté pour des raisons professionnelles encore quelques mois. Donc c'était cette période de transition. Les photos du quartier d'Alger, les photos du port, les photos des immeubles, tout ça a évoqué pour eux des images très anciennes et très agréables, même si les derniers mois à Alger étaient évidemment un peu difficiles.
Il y a eu beaucoup de souffrance.
À cause de la guerre, oui, oui. Oui, alors vous avez raison, il y a eu beaucoup de souffrance, mais je sentais que chez beaucoup d'Algériens, d'abord c'est une histoire fort ancienne, la guerre d'Algérie, hein, c'est quand même maintenant il y a 60 ans, et puis, il s'est passé quelque chose pour eux, c'est que depuis, il y a eu une autre guerre, la guerre civile, qui a été absolument affreuse et qui est très présente. Parce que pour le coup, ce n'était pas il y a 60 ans, c'était il y a 30 ans. Et donc, toutes les familles algériennes et algéroises sont concernées de près ou de loin. Et d'une certaine manière, le temps qui a passé fait que les relations avec la France, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des... Il n'y a pas eu des souffrances, des blessures et peut-être encore des rancunes, mais leur apparaît comme un temps ancien et finalement relativement paisible, alors que la guerre civile a véritablement déchiré le pays, et ils ont tous en tête des scènes d'horreur, des histoires affreuses. Et donc, parler avec un Français des années 50 et 60, c'est beaucoup plus agréable que d'évoquer la décennie noire de 90.
Je vais demander à Nathalie de nous dire un peu ce que nous faisons.
Nous sommes à l'antenne de Radio Courtoisie, le libre journal du monde de la foi. Nicole Pilorge reçoit Étienne de Montetti. Il est écrivain, directeur du Figaro littéraire, et il a écrit un livre, Il y a une autre rive, chez Stock, dont nous parlons ce soir.
Voilà. Bien, c'est un grand plaisir de vous rencontrer.
Merci.
Je vais demander maintenant à... Je vous ai demandé si vous aimiez quelques musiques. Je vais demander à Sonia... je trouve plus son nom.
Claudia.
Claudia, ça fait deux fois. Pardon Claudia, je vais demander à Claudia de nous passer quelque chose. Il s'agit de l'entrée des Boréades de Jean-Philippe Rameau.
Thank you.
Eh bien, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans le studio avec, après avoir quitté Jean-Philippe Rameau, c'était l'entrée des Boréades, acte 4, et c'est interprété par le chœur Monteverdi et l'ensemble baroque anglais, dirigé par John Eliot Gardiner. Voilà. Eh bien, je voulais vous demander, qu'il y a, avec ce personnage, il y a une sorte d'intimité entre vous et ce personnage. Comment est-ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé que ce personnage est né, est arrivé? Où est passée la muse?
Eh bien, d'un certain nombre de rencontres et puis aussi d'une réflexion sur, sur les personnes d'origine musulmane qui se convertissent au christianisme.
Ah oui,
c'est un sujet qui m'a intéressé. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont dans ce cas, des néophytes, comme on dit, des catéchumènes, et dont l'histoire m'a intéressé parce qu'ils arrivaient de l'autre rive. Et ensuite, littérairement, si vous voulez, j'ai composé un personnage à partir d'éléments de beaucoup de rencontres. Et donc, vous me demandez d'où vient cette intimité? Elle vient de l'intimité qu'il y a entre un créateur et sa créature, en quelque sorte.
Oui, oui, oui.
Entre Geppetto et Pinocchio.
Oui.
Entre un père et ses enfants. Et j'aime assez parler, moi, de mes personnages comme de mes enfants. Parfois, on me demande lequel je préfère. J'ai pour ces personnages le regard qu'un père a pour ses enfants. Ça veut dire qu'il les aime tous, même s'il ne consent pas à tout ce qu'ils font. Mais il a un regard, une certaine compréhension, une certaine bienveillance, même si un des personnages est un assassin. Et donc cet homme, Armand, dans sa recherche spirituelle et dans sa conversion, m'a beaucoup touché. Et j'ai voulu en parler, de cette manière que vous qualifiez d'intime, c'est-à-dire j'ai voulu le suivre au plus près de l'évolution de son cœur et de son âme.
Oui, c'est ce qu'on ressent et ce qui fait qu'on est très, très attaché et on est embarqué dans cette histoire. Mais si je suis indiscrète, vous ne répondez pas. Vous avez vous-même des enfants?
J'ai des enfants, oui.
Plusieurs?
Plusieurs enfants,
oui. Des garçons?
Des garçons et des filles. Et...
Et vous vous sentez impliqué en tant que père dans ce livre, ce que le père que vous êtes.
Ah, je ne sais pas s'il y a le lien entre le père de famille, mais j'ai avec mes personnages, oui, un rapport qui est sûrement un peu paternel, oui.
Oui, c'est ça ma question.
Oui, c'est très manifeste. Alors là, ça se voit peut-être pas, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle La Grande Épreuve, où il y a quand même des assassins, des terroristes et une victime. Et on me disait, c'est étonnant, le regard que tu as sur ces personnes-là. Et je disais, j'ai aucune indulgence pour des terroristes, je n'ai aucune indulgence pour des assassins, mais j'ai quand même le regard d'un père qui cherche à comprendre, qui cherche à dissocier l'homme de son acte. Et qui, malgré tout, malgré le crime, continuera peut-être à aimer celui qui a tué, parce que ça m'intéresse littérairement et puis ça m'intéresse humainement que finalement, il y a une forme d'amour qui prévale, ce qui n'empêche absolument pas la justice, ce qui n'empêche pas du tout la punition quand on a mal agi, mais l'écrivain, je pense, il n'aime pas ses personnages, il rate quelque chose, parce que le lecteur voit très vite le parti pris, voit très vite que l'histoire est racontée, qu'il y a le beau rôle et le mauvais rôle, et d'une certaine manière, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est de voir l'humanité dans toute sa diversité et de voir le regard intéressé, enfin au sens... curieux que peut avoir le romancier, et j'espère un lecteur, sur cette humanité-là.
Ce qui me choque beaucoup. C'est pas seulement choqué, ça me touche beaucoup. C'est de savoir que ces jeunes-là, qui actuellement font des horreurs, qui s'entretuent pour des bêtises, pour un téléphone, où est-ce qu'ils ont le cœur? Ils n'ont plus de cœur. Le cœur a été... On leur a enlevé le cœur. Comment réveiller ce cœur? Comment...
Oui, en effet, la violence les submerge. Je pense qu'il y a un cœur, mais qui est submergé par beaucoup, beaucoup de choses. Mais puisqu'on parle des enfants, oui, il faut penser à leurs parents. À des parents souvent démunis, des parents souvent...
qui n'ont pas le temps de s'occuper des enfants.
Submergés, eux-mêmes, avec des problèmes. Il y a un livre paru l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui a paru, c'est la sœur du père Hamel, qui s'appelle Roselyne Hamel, qui a écrit un livre qu'elle a co-signé avec la mère de l'assassin du père Hamel. C'est donc la sœur de la victime et la mère de l'assassin. C'est un livre d'une très très grande sensibilité, parce que finalement, l'une et l'autre, sans rien dissimuler du sujet, un crime d'un côté, un mort d'une autre, elles parlent ensemble. Et pour le coup, il n'y a pas 2 rives, il y a une seule rive avec beaucoup de malheur. Il y a beaucoup de miséricorde aussi qui est exprimée.
De compréhension.
Et on réalise que c'est un acte qui fait beaucoup plus de victimes qu'un seul mort. Ça fait exploser une famille, la famille en l'occurrence de l'assassin.
Bien sûr, les deux familles.
Les deux familles. Ça crée des familles dans le deuil. Et cet aspect des choses, au-delà du bien et du mal, est très, très, très intéressant. Et j'étais très touché par ce livre qui allait bien au-delà du schéma qui existe, bien sûr, d'un crime terroriste et puis d'une victime, et qui essayait d'aller au-delà.
C'est déjà ça, mais au-delà.
Oui, avec une lecture véritablement chrétienne de la part de cette femme, la sœur du père Hamel. En disant, on va aller au-delà de la violence, au-delà du chagrin. Je ne sais pas si le mot de pardon est prononcé, ce n'est pas moi de le prononcer, ça serait plutôt à elle. Mais c'est une belle attitude, très évangélique en tout cas.
Mais nous sommes dans le monde de la foi. Vous avez eu la chance de connaître la foi enfant?
Oui.
Elle vous est tombée dessus? Cette foi a été nourrie?
Oui, j'ai la chance d'avoir vécu dans une famille chrétienne, oui.
Apparemment, elle est toujours là, très forte.
Écoutez, c'est à mon confesseur qu'il faut poser la question.
Là, c'est déjà du détail. Non, là, ça n'est plus l'émission. Alors, je voulais demander l'ouverture. Oui, c'est votre livre, c'est... Une ouverture, moi j'ai mis vers d'autres horizons, mais c'est d'autres rives. Et c'est vraiment chez l'ouverture sur un monde qui n'est pas le nôtre, quoi, c'est ça.
De quel monde parlez-vous?
Je parle le monde dans lequel vous nous emmenez.
Ah oui.
Dans la famille de Arman, parce qu'il y a un R,
oui,
ça s'écrit
ça se prononce Raman et ça,
Arman, je n'y arrive pas, hein, j'ai essayé plusieurs fois. Arman et cette famille. Donc il est parti en Algérie et puis là il a retrouvé sa grand-mère.
Oui, il retrouve sa famille, il retrouve sa cousin, il retrouve une culture familiale.
Parce qu'enfant, il allait...
Il passait ses vacances.
Toutes les vacances, ils...
Voilà, et donc c'est agréable, c'est plaisant. Et il va rencontrer ses cousins qui ont le même âge que lui, qui n'ont pas quitté, eux, la région, qui sont des bons musulmans, qui vivent selon les préceptes de l'islam. Il y a un couple de cousins là, qui le touchent, parce que c'est un couple sympathique, amoureux, uni, bref. Il est...
Et c'est un islam tout à fait carré, qui leur va très bien.
Voilà, qui est intégré à leur vie et qui, évidemment, le fait réfléchir, l'attire, parce que lui n'a pas reçu tout ça. Il est véritablement déraciné. Parce que c'est le retour à la famille, le retour aux origines, c'est un parcours normal. Et là, le romancier que je suis a imaginé, puisque c'était mon propos initial, une bifurcation, un coup de théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en Algérie, évidemment, pays arabe, pays musulman, mais il n'y a pas que des musulmans en Algérie, il y a aussi des chrétiens. Il y a des chrétiens d'origine autochtone, il y a des chrétiens d'origine immigrée, notamment en provenance du Sahel, des pays du Sud. Et puis, il y a encore quelques témoins de l'Église européenne, hein, des années 50-60, les religieux qui ont d'ailleurs payé ce lourd tribut des années noires, les fameux martyrs d'Algérie qui ont été béatifiés il y a quelques années, et il en reste. On rencontre des petites communautés ou des personnes.
Et votre personnage là, qui retrouve cette bâtisse blanche.
Oui, alors voilà, des petites églises.
Où il y a eu un meurtre.
Où il y a eu un assassinat, en effet. Et puis des personnes, des religieux enfouis dans la société algérienne, mais qui sont des religieux de l'Église catholique. J'en ai rencontré à Alger, des religieuses, des religieux, vivant discrètement, souvent dans des métiers de service, entièrement consacrés, dévoués au peuple algérien, aimés d'ailleurs par eux, et inventé la figure d'un religieux, un petit peu dans l'esprit de Charles de Foucault. Et c'est cette rencontre-là, plus profondément, d'une certaine manière, que les retrouvailles avec sa famille, c'est la rencontre avec ce religieux qui va déterminer l'avenir de mon personnage. Il est touché mystérieusement, parce que cet homme n'a rien d'exceptionnel. C'est un médecin à la retraite.
Un médecin âgé.
Âgé, qui ne pratique plus, mais qui va l'aider.
Et qui est un religieux.
Et qui est un religieux. Et qui va lui témoigner, par son exemple, le service, et puis par sa parole aussi, en lui disant « je suis religieux, je suis consacré à Jésus-Christ ». Et cette personnalité va le marquer et va commencer à le faire réfléchir sur non plus la foi de ses pères, mais une autre foi dont il n'avait jamais tellement entendu parler.
Ce qui est surprenant, c'est que Arman ne veut pas aller à l'hôpital. Il veut aller voir. Il décide d'aller voir ce médecin.
Oui,
et ce médecin refuse. Lui dit non, je suis à la retraite, il n'en est pas question.
Il est intrigué par cet homme et la manière dont sa grand-mère, sa grand-mère lui en a parlé,
voilà,
de manière intrigante. C'était le médecin des pauvres. Il ne faisait pas toujours payer. Personnalité populaire. Vous vous souvenez de ce film des dieux et des hommes ?
Oh oui.
Voilà, il y avait ce prêtre, ce moine, pardon, médecin lui aussi. Vous voyez, c'est ce type de figure. Il y en a eu beaucoup. Il y en a encore en Algérie, qui sont des gens entièrement donnés à la population, et donc qui sont très populaires. Les gens les aiment beaucoup. Les moines de Tibérine ont laissé un souvenir très, très marquant en Algérie.
Vous avez rencontré des gens qui les ont connus ?
Alors j'en connais, mais surtout je suis allé à Tibérine lors de mon séjour.
Oui, alors.
Et l'endroit et le cimetière sont des lieux de pèlerinage. Et de pèlerinage pour qui ? Pour les Algériens. Toute la journée défilent des visiteurs qui viennent visiter le monastère, et la fin de la visite s'achève au cimetière devant les tombes. C'est donc une sorte d'hommage assez mystérieux que la population algérienne rend à ces hommes qui sont morts. Et pour les Algériens, c'est une tragédie algérienne. Hein. Ce n'est pas les chrétiens contre les musulmans ou les français contre les Algériens. C'est une tragédie de la guerre civile en Algérie, la guerre civile algérienne. Et donc ce personnage que j'ai inventé, qui s'appelle Jean-Marie, va avoir ce rôle d'éveiller quelque chose dans
Arman. J'ai eu du mal à le visualiser. Je sais pas, je le voyais grand avec un peu de barbe. Mais est-ce qu'il avait une robe de moine?
Ah non, il est en civil.
En civil, c'est comme ça que je le voyais.
Il est en civil. Il flotte un peu dans ses vêtements parce qu'il vit comme un ascète.
Oui.
Et donc, il est maigrelet. Il a des beaux yeux très ardents, très
perçant,
très perçant, voilà, parce qu'il a un feu intérieur. Et puis, il est gentil, il est original, il cultive des herbes pour les petits...
Ah oui,
pour
il
les
soigne
petits,
bio.
Voilà, pour les petits bobos. Qui
l'aromathérapie.
Voilà, c'est un personnage et il a laissé dans son quartier un très très bon souvenir. C'est cet
Alors
homme.
Celui-là, vous l'avez complètement inventé.
Je l'ai inventé. J'ai inventé peut-être un médecin que j'aimerais rencontrer.
Je suis muette parce que je l'ai bien vu, je l'ai bien...
Voilà.
Nous sommes rencontrés comme ça, par un personnage.
Oui.
Au travers de lui. Alors, il y a aussi cette histoire de la... J'ai ressorti ça, hein. La laïcité... Parce que la maman de
Arman.
D'Arman, la maman d'Arman, finalement, est adepte de la laïcité, sans être pour autant
oui.
travaillée par la laïcité, ni excitée par la laïcité, comme certains. Mais ce n'est pas une laïcarde du tout. Et... J'ai eu l'impression que la laïcité empêche de parler de spiritualité. On s'empêche d'en parler sous prétexte de laïcité et de ce fait, on ne sait plus rien des religions.
Alors, il y a la conception, oui, exacerbée de la laïcité comme une sorte de dogme de substitution des religions.
Mais en même temps, un peu partout, on fait attention à ne pas choquer.
Parce qu'on est en France avec une culture qui installe ça.
Alors que la laïcité laisse ouvert.
Elle devrait laisser
et
ouvert.
Et elle ferme tout.
Absolument, mais ça c'est une conception restrictive des choses. Qui n'existe pas dans d'autres pays. Non, pour revenir à cette femme à Lima, elle a été heureuse en France de pouvoir travailler, jouir pleinement de sa vie de mère de famille. Et effectivement, elle est laïque et elle n'aime pas beaucoup les religions parce qu'elle a de mauvais souvenirs de son mari qui s'est radicalisé et qui a commencé à vouloir lui dicter ce que devrait être sa vie. Et donc, elle a lorsqu'elle comprend, apprend que Arman fait un chemin religieux, même si ce n'est pas celui de l'islam, mais celui du christianisme, elle a un mouvement un peu de méfiance, parce que pour elle, religion égale contrainte. Mais on sent que son amour de mère, et donc les antennes de la mère vis-à-vis de son fils, lui disent que s'il est heureux, s'il est serein sur ce nouveau chemin, il faut qu'elle le laisse aller. Et ça, ça m'a fait plaisir de pouvoir l'exprimer à travers ce personnage.
Et vos enfants ont été directement dans la religion catholique?
Oui, c'était celle de leurs parents, donc ils ont été élevés.
Des parents
dans...
et de vos parents et des parents de vos parents.
Voilà, donc ils ont suivi le chemin.
C'est comme une pluie.
C'est une grâce, et puis il faut un peu entretenir.
Une grâce, oui.
Il faut un petit peu entretenir quand même.
Ah oui, oui.
Puis après,
parce que
chacun son chemin après.
Je crois aussi que... On parle de ces nouveaux baptisés, ces nouveaux... Mais comment est-ce qu'ils ont rencontré l'Église? Parce que dans votre livre, Arman, Armand n'est jamais entré dans une église.
Non, mais il rencontre un chrétien.
Mais
il rencontre un chrétien dans l'endroit le plus inattendu. Dans l'endroit le plus inattendu. Les convertis, quand ils témoignent de leur chemin, ça passe souvent par des rencontres avec un chrétien dans l'autobus, avec un prêtre, quand ils en croisent un dans la rue. Ou... Quand on voit qu'il est prêtre, par le plus grand des hasards. Mais ça passe très très souvent, oui, par une rencontre et la constatation par les intéressés qu'ils ont rencontré ce qu'ils cherchaient depuis longtemps. C'est assez touchant. Et puis, il y a autre chose qui parle beaucoup aux musulmans, et ça, c'est également très touchant, parce que la tradition chrétienne occidentale ne prend pas tellement en compte ce genre de choses. Ce sont les songes. Les musulmans parlent de songes, croient aux songes, et beaucoup de personnes racontent qu'elles ont vu en songe quelqu'un, et que un peu plus tard, peut-être en entrant dans une église justement, ils ont réalisé que la personne de leur songe c'était la Vierge Marie ou c'était le Christ. Et je reconnais que ça nous déconcerte, parce que enfin la Bible est remplie.
C'est une autre culture.
La Bible est remplie de songes.
Mais oui,
Dieu
mais
intervient
oui.
tout le temps dans la Bible par les songes, et le songe de Joseph ou de tant et tant de personnes, et donc ils en parlent avec un grand naturel, mais c'est toujours une rencontre, la rencontre avec le Christ, qui passe par la rencontre avec un homme, une femme, un chrétien, une chrétienne.
Je suis allée à Lourdes plusieurs fois, et la dernière fois je me suis promenée et je me suis dit, voyons, je viens là, je regarde, je vois, bon, il y a le rosaire, mais personne ne vient me parler. Je suis là toute seule, je marche. Là, il n'y a personne. Je vois des prêtres qui marchent, qui courent. On en voit, mais il n'y a pas d'accueil. Sauf l'accueil touristique derrière le bureau de la dame qui vous dit c'est de telle heure à telle heure et ça ferme à telle heure. Il y a quelque chose là. Pour rencontrer un prêtre, encore faut-il qu'il y ait des prêtres qui soient là, qu'on voit qu'ils sont prêtres. Je me suis posé cette question, je me suis dit... S'il y avait un petit bistrot, peut-être...
vous vous adressiez aux autorités ecclésiastiques
oui,
de Lourdes.
Oui, j'y repensais.
En tout cas, je peux vous dire que les convertis, puisque maintenant les baptisés, c'est plusieux dizaines de milliers. Hein, je crois qu'on est à 15 000 nouveaux baptisés à Pâques.
C'est magnifique.
Témoignent de rencontres tout à fait inattendues.
Ah oui.
Et donc... ce sont des rencontres où la raison ou l'organisation n'entre pas en ligne de compte. Pourquoi on adresse la parole à quelqu'un dans un autobus
au bon moment.
Dans le métro, au bon moment, voilà. Et donc, ça dépasse un peu la logique qu'il faudrait qu'effectivement, il y ait un lieu d'accueil. Non, ça va se passer de manière beaucoup plus inattendue et d'ailleurs de manière très touchante. Parce qu'on sent que la rencontre arrive à point nommé pour ces personnes qui, sans le savoir, attendaient quelque chose.
Je repense à l'histoire. Il y avait le bistrot du curé. C'était l'Emmanuel, la communauté de l'Emmanuel, qui était à l'église de la Trinité. Et en même temps qu'il y avait une petite église Sainte Rita près de Pigalle. Et le curé de l'époque, le père Cohn, qui est maintenant Monseigneur Cohn, avait organisé le bistrot du curé. Et c'était intéressant pour l'Église. Parce qu'il y avait un petit... On pouvait avoir une soupe de légumes, c'était très simple, ce qu'on pouvait manger. Mais il y avait à l'étage au-dessus tout ce qu'il fallait pour prier.
Très bien.
C'était une belle initiative. Alors, nous avons reçu ici, dans le monde de la foi, Jamila, qui est une maghrébine convertie. Et elle est même venue deux fois. Et Jamila, maintenant, elle fait la sortie des mosquées. Et elle n'a pas peur, hein. Elle a eu une vie très, très difficile. Elle fait la sortie des mosquées et elle parle de Jésus. Voilà. Je l'ai appelée parce que je me suis dit, tiens, je vais demander à Jamila. Je ne savais pas qui viendrait. Et Jamila m'a dit, je ne peux pas, je suis à Rome. Voilà. Voilà une convertie très, très, très convertie.
Oui, mais ils sont nombreux. On compte à peu près 5% parmi les catéchumènes, 5% de personnes qui viennent de la sphère musulmane, plus ou moins proche de la religion, mais 5%, c'est pas rien, ça fait plusieurs centaines par an de gens dont les histoires sont toutes singulières, très touchantes, parce que ça introduit beaucoup de bouleversements dans leur vie, mais qui sont très très belles.
Oui, je pense à Jamila. C'est une sorte de modèle. Et elle a eu une vie très, très, très dure. Et maintenant, elle est heureuse avec Jésus. Et il y a des modèles qui vous ont inspiré dans votre vie, dans des modèles. Est-ce que vous avez...
Des modèles de...
De vie. Des rencontres de vie, des
oh là
modèles.
Là. Écoutez, il aurait fallu que vous me demandiez ça, que je réfléchisse un peu. Parce que
qui vous ont inspiré aussi pour...
Le grand âge venant, j'ai beaucoup, beaucoup de rencontres dans ma vie.
Oui,
donc,
bien
je sais pas.
C'est pour ça que c'était intéressant aussi de
vous
faire parler.
Je ne sais pas lesquelles choisir.
Alors, la première... Qui vous est marqué, disons, quand vous étiez enfant même.
De qui je peux vous parler? Je peux vous parler de Gabriel Daubared, qui était un grand oncle pour moi et qui était journaliste aux Nouvelles Littéraires.
Ah voilà, ça a vraiment fait des fruits.
Et qui me fascinait parce qu'il était la première personne qui me parlait des écrivains, non pas comme des gens qui sont dans les livres de l'école, que j'avais dans mon cartable, mais comme des êtres vivants. C'était un ami intime, d'ailleurs, de Marcel Pagnol, avec qui il avait été à Marseille et avec lequel il avait travaillé. Ils avaient créé une revue littéraire et puis qu'il avait suivi à Paris. Alors, il n'a pas eu le succès triomphal de Pagnol pendant toute sa vie, mais il était un... Il était quelqu'un qui me parlait de Pagnol, comme on parle de son bon ami, alors que pour moi, Pagnol, c'était un livre, La gloire de mon père, qu'on apprenait en cinquième.
Ah oui.
Et ça m'a donné, tout d'un coup, un autre regard sur la littérature et le monde des écrivains. Et voilà, vous me demandez quelqu'un dont je me souviens dans mon enfance, c'est cet homme.
Vous me faites penser à Jean Adouille, où j'étais au lycée, et vraiment, j'aimais Antigone, je ne comprenais pas bien de quoi il s'agissait. D'ailleurs, c'est la question de la vie, hein, l'histoire d'Antigone. Mais je sentais que c'était important et ça me disait, je lisais l'Antigone d'Anouilh et puis j'ai rencontré Anouilh. C'est curieux ça aussi, hein.
Bah, je crois qu'on est attiré dans ces cas-là.
C'est très...
On provoque ou on...
J'ai joué 8 pièces de nouilles. Ouais. C'est incroyable.
On ne refuse pas et au contraire, on recherche confusément la rencontre avec quelqu'un qu'on aime, qu'on a aimé.
Oui, oui. Ouais. Quand la littérature vous emmène, vous créez un personnage et puis vous le rencontrez.
Oui.
Ça doit vous arriver, ça, hein?
Oui, oui, bien sûr.
Et ça, c'est mystérieux.
Oui, oui. Mais là encore, parce que les êtres créés par la littérature sont l'agrégation de beaucoup, beaucoup de choses, du réel. Donc à un moment donné, le réel et la fiction se rencontrent quand même un petit peu.
Et pour les acteurs, c'est pareil. Il se passe des choses bizarres.
Mais c'est ça qui fait le sel de la vie.
Oui. Par exemple, moi j'étais en contact avec les évangiles vraiment fortement en jouant une pièce, une comédie musicale qui s'appelait Godspell. Peut-être l'avez-vous vu ? C'était Porte Saint-Martin.
Non.
Dans les années 70. Hein. Et nous avions des salles entières de prêtres et de religieuses. Et c'était l'évangile selon saint Matthieu. C'était porteur. Et ça m'était donné tous les jours. Tous les jours à la même heure. Fallait voir la poutre qui était dans mon œil.
Quel personnage vous jouiez ?
Oh, c'était plusieurs. Je jouais plusieurs personnages. En particulier, je faisais la parabole du semeur. Puis je faisais aussi Lazare. Enfin, il y avait différents personnages. Et puis, quand la femme adultère devait être lapidée, tout le monde disait « On y va, on y va, on n'y va pas !» Et elle s'en sort parce que Jésus est là. Enfin, c'était une très jolie comédie musicale. J'en parle parce que souvent, il y a des prêtres qui viennent ou qui entendent, qui ont vu ce spectacle. Ils en avaient été donné des extraits au pape, mais alors en japonais.
Oh.
Ah oui, oui, j'avais été surprise de revoir cette pièce en japonais. Bon, nous voilà loin de
d'Arman.
Arman, merci, merci, merci. Et comment on devient écrivain ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenu écrivain ? Comment ça a commencé ?
Ben, en écrivant.
Le goût d'écrire ?
Oui,
un journal peut-être ?
Le goût d'écrire, non, d'écrire. Non. D'écrire. D'écrire pour soi, pas vraiment un journal, d'écrire des histoires.
Au lycée ?
Oh, avant.
Avant ?
Oui, à l'école. Peut-être à l'école, peut-être pas primaire, mais pas loin. Ouais.
Au cours moyen, quoi.
Oui, redécrire, de tracer des mots sur le cahier, de raconter des histoires, de lire des livres aussi, avec cette idée qu'un livre, c'était quelque chose de magique. Une histoire était racontée, dont on s'emparait, ça ouvrait des portes jusqu'à l'infini.
Histoire de créer des mondes.
Oui, oui. Oui, très vite, j'y étais très sensible. Et puis, je suis d'une famille où il n'y avait pas la télévision. Et à l'époque, il n'y avait pas d'écran du tout. Il n'y avait pas, évidemment,
bien sûr,
l'ordinateur, Internet, etc.
Comment faisions-nous pour vivre sans téléphone ?
Et pas de téléphone portable. Et donc, le soir, si on ne jouait pas, ou si je ne sais pas quoi, il y avait la vie de famille, j'ai tout de suite été mis en contact avec les livres. Et j'ai passionnément aimé les livres de mon âge. Et puis, j'ai eu la chance après de pouvoir beaucoup lire. Je me souviens de la bibliothèque de mon quartier. On appelait la bibliothèque pour tous. Et la bibliothécaire me disant à un moment donné que je suis ennuyé, là tu viens toujours, je ne sais plus quel livre te donner.
Ah.
Ce n'était probablement pas une bibliothèque très grande et je pense que j'avais lu tous les livres, du moins tous les livres de mon âge.
Oui, 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 oui.
Et je crois que je n'ai pas passé beaucoup de jours de ma vie sans avoir ouvert un livre. Je cherche les jours où je n'ai pas ouvert un livre et pas lu quelques lignes. Et j'ai un souvenir précis, puisqu'on en est c'est l'heure des confidences. Quand je suis parti au service militaire, ça montre que je suis un vieux monsieur maintenant, ma principale préoccupation, c'était pas du tout ce que j'allais y faire. Pour moi, c'était un an de vacances, c'était un an de plein air et de sport. Donc ça m'amusait beaucoup. Et puis de dépaysement aussi, après les années d'études, je trouvais ça très amusant de changer d'univers. Mais mon souci, c'était de me dire, est-ce que j'aurai le temps de lire ? Est-ce que j'aurai le temps d'ouvrir un livre ? Et j'avais dans la poche de mon treillis, là, sur mon cœur, ou de l'autre côté, là, il y avait des poches latérales, sur les pectoraux, j'avais un livre de poche. Et dès que j'avais 5 minutes ou une heure, parce que dans l'armée, il y a des moments où on attend, Je prenais mon livre et je lisais, ce qui fait que j'avais tout de suite trouvé un équilibre entre ce qu'on nous demandait de faire et puis la lecture qui correspondait pour moi à ma nourriture intime.
Et écrire ?
Eh bien, écrire, ça c'est lié naturellement. Ça c'est lié
pendant le service militaire, ça devait...
Non, alors j'ai pas eu l'occasion d'écrire pendant le service militaire. Mais très vite, j'ai commencé à écrire dans le journal local, en Île-de-France.
Parce que vous étiez journaliste ?
Non, j'étais étudiant. J'étais étudiant, mais on m'a proposé de collaborer à un journal local. Il fallait suivre une actualité locale. Et ça m'a amusé. Je me suis tout de suite senti très, très à l'aise. J'y ai appris mon métier, d'ailleurs, sur le tas, parce que un petit journal local ou un grand quotidien national, c'est la même école. Hein. Il faut intéresser le lecteur, il faut donner des informations, il faut écrire de la manière la plus plaisante possible, avec un lecteur qui a plein d'autres choses à faire que d'aller jusqu'au bout de l'article. Donc ça, c'est une école d'exigence. Et puis tout ça est venu naturellement, parce que ça me paraissait naturel et que j'aimais faire ça.
Et je pense que le journaliste qui est en vous fait qu'on accroche. Vous accrochez le lecteur. Vraiment, on est pris.
Oui, parce que j'ai un rédacteur en chef qui me dit toujours, tu sais, le lecteur a beaucoup d'autres choses à faire qu'à lire ton article. Il est sollicité par 1000 choses, il est happé par beaucoup de sollicitations, peut-être que... ses enfants, peut-être que son conjoint, son collègue, son voisin le sollicite. Il faut que dans un article, et à plus forte raison dans un livre, il y ait des moments où on rattrape le lecteur par le col. Et si ce geste-là n'est pas là, eh ben le lecteur décroche. Et donc il faut construire un livre, pas comme un roman policier, pas comme un roman à suspense, mais il faut ménager des moments où le lecteur se demande ce qui va se passer, plutôt que le lecteur se dise « Bon, je sais en gros ce qui va se passer, de la manière dont ça va se passer, et finalement, je laisse le livre. »
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal du monde de la foi. Nicole Pilorge reçoit Étienne de Montetti, il est écrivain, directeur du Figaro littéraire, et il a écrit « Il y a une autre rive » paru chez Stock cette année.
Thank you. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, chers auditeurs, je voulais vous parler d'une soirée, une grande soirée qui se passe à l'espace Bernanos. L'espace Bernanos, c'est une très belle salle de spectacle qui est à l'intérieur de du bâtiment de l'église Saint-Louis-d'Antin. C'est-à-dire que c'est juste à côté de la gare Saint-Lazare, entre la FNAC et le magasin du printemps. Hein, c'est ça?
Voilà, et surtout un haut lieu de la culture. Cet espace a été créé il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années.
Oui.
Et c'est devenu un lieu important de rencontres diverses et variées sous l'égide de Bernanos, donc la rencontre entre la foi et la culture.
Alors, c'est 4 rues du Havre. Vous le trouvez automatiquement, vous trouvez l'église. Et c'est de l'autre côté de l'église, en fait, c'est rue du Havre, tout à côté de la gare Saint-Lazare. Donc. Alors, cette soirée, c'est les chemins vers la foi catholique. Et c'est mercredi 25 mars 2026 à 20h30. Hein, alors, je vais tâcher d'y aller parce qu'il y a un invité, il y a plusieurs invités, mais il y en a un qui est devant moi. Et c'est Étienne de Montetti. Le thème de la soirée, c'est converti, justement.
Oui, c'est ça. La soirée a lieu un peu avant la Semaine Sainte. Donc, c'est le moment où l'actualité se porte sur les convertis, les gens en cours de conversion. C'est le sujet de mon roman. Et puis, c'est devenu un phénomène. Contemporain.
Chaque année,
le nombre de baptisés augmente, les sociologues s'interrogent, les spécialistes s'interrogent, et il y a quelque chose qui échappe un peu aux chiffres, qui échappe un peu aux experts. C'est la rencontre miraculeuse de personnes qui ont été très éloignées de la foi par leur histoire, leur éducation, la trajectoire de leur vie, et puis qui tout d'un coup font une rencontre qui change le cours de leur existence et qui demandent le baptême contre toute raison, contre toute logique, et qui sont heureux de rejoindre l'Église catholique.
Alors, on parle beaucoup aussi de ce baptême, cette préparation qui dure 2 ans.
Oui.
Ça demande vraiment un engagement.
Oui.
Se préparer, une formation. Et...
Oui. C'est vrai, l'Église est assez exigeante, mais c'est aussi pour que les gens puissent éprouver leur conversion, que ce ne soit pas un feu de paille. Et c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer une communauté, parce qu'on n'est pas chrétien tout seul, donc c'est aussi par la préparation l'occasion de rencontrer d'autres personnes en chemin. Et puis au bout de 2 ans, il y a ce moment de la nuit pascale où ils reçoivent le baptême.
Et cette soirée, c'est à l'initiative de l'espace Bernanos, ce sera un moment d'écoute, de réflexion, et c'est pour être accompagné, je vois sur l'affichette, accompagner le travail du Concile des diocèses d'Île-de-France sur les chrétiens et les catéchumènes et les néophytes. Les accompagner. Oui, parce que deux ans, on est baptisé, ensuite on est lâché dans la nature.
C'est un des enjeux, c'est pour ces personnes. Et à plus forte raison, je reviens à mon livre, mais c'est pas pour revenir à mon livre, mais notamment les personnes qui arrivent de très loin, notamment d'une autre religion, comme la religion musulmane, et qui se retrouvent coupées de leur communauté d'origine, de leur famille, à cause de cette conversion, et qu'il est urgent que les communautés chrétiennes, les chrétiens, inventent des moments, des lieux d'accueil pour que ces personnes se sentent accueillies au-delà des quelques jours autour du baptême, où il y a une sorte d'effervescence. Mais comment créer des communautés où c'est converti avec des histoires particulières, qui n'est pas forcément ce que le le ou la vieille catholique, j'entends, de tradition, pour qui aller à l'église le dimanche est une évidence socio-culturelle et spirituelle qui va de soi. Pour des convertis dont ça a changé la vie, c'est moins évident et il faut se constituer une communauté chaleureuse, amicale, qui leur permette de vivre leur foi en groupe, parce que sinon, isolés,
Qu'ils soient profondes.
Qu'ils soient profondes.
Parce que
profonde,
c'est pas faire semblant.
Oui, et puis accueillant, tout simplement. Il faut aussi que l'amitié trouve son compte, et c'est pas toujours facile. Dans des communautés déjà structurées, déjà soudées, de trouver sa place. Donc c'est tous ces enjeux qui sont là, bien au-delà de la formation, c'est que des paroisses puissent faire leur place à des convertis qui viennent d'ailleurs, qui viennent parfois de loin, qui peuvent être un peu déconcertants peut-être, mais qui
enrichissent, qui font vivre.
Oui, et puis qui ont fait un chemin tout à fait remarquable, parce que c'est pas une foi qu'ils ont...
Ils viennent de loin.
Qu'ils ont reçu, c'est une foi qu'ils ont choisie, et pour laquelle ils ont fait souvent des sacrifices.
Oui. Alors, c'est une grande soirée, donc, à l'espace Bernanos, 4 rue du Havre, les chemins de la foi, et c'est mercredi 25 mars. C'est juste avant la Semaine Sainte.
Oui, c'est ça, c'est cette actualité-là. Ouais.
Voilà, pour les convertis. Alors, il y aura donc Étienne de Montetti qui est là, qui vous parle, et puis Josua Collin, qui parlera des nouveaux baptisés, Antoine Pasquier, qui fait une enquête sur les jeunes qui veulent devenir chrétiens, et puis il y aura des témoignages de convertis. C'est toujours mystérieux, la conversion. C'est-à-dire qu'il faudrait se convertir tous les jours pour se mettre à jour. Ça c'est l'idéal.
C'est le défi.
Mettre à jour.
C'est le défi que tout le monde doit avoir. Mais c'est toujours très touchant. Moi, je reconnais que ça m'intéresse beaucoup de voir des gens dont la vie bifurque à l'occasion d'une rencontre. Et leur histoire est toujours merveilleuse, parce qu'il y a un risque, il y a une audace à bifurquer. Il y a souvent aussi une urgence qui fait que le converti ne se pose pas trop de questions. Mais j'aime énormément écouter les histoires... de conversion, alors religieuse, parce que c'est notre sujet, mais aussi de gens qui ont changé de vie, qui ont changé de métier, qui ont changé de civilisation. J'admire beaucoup toujours l'audace que ça nécessite de sortir de son confort.
Je crois qu'on ne se rend pas compte, se rend compte après. Parce que pendant le chemin, c'est...
Oui, en effet.
On a le nez dans le guidon.
Oui, et puis on est surtout mu par une sorte d'urgence.
Débordé par tout ce qui se passe.
Oui, on change parce qu'on sent qu'il faut changer. Et notamment une conversion. Quand la rencontre avec le Christ se fait, je crois que c'est tout à fait impérieux. Et ça ne souffre pas de retard. Et c'est après, effectivement, qu'on en mesure l'importance, mais aussi ce que ça signifie d'abandon, de dépouillement. Et voilà, beaucoup de communautés chrétiennes... commence à prendre en compte cette question-là et à monter des structures ou des moments d'accueil. Il y a notamment à Paris beaucoup, beaucoup de groupes qui accueillent les chrétiens d'origine musulmane qui se retrouvent avec une expérience commune.
C'est intéressant.
Pour des temps de rencontres, de partage, la messe, et avec leur expérience singulière qui viennent d'une autre rive, mais qui sont heureux de se retrouver sur la rive d'en face.
Est-ce que vous avez accompagné quelquefois de ces convertis?
Alors accompagné non, mais rencontré, oui, j'ai passé plusieurs soirées avec eux. J'ai beaucoup recueilli de témoignages, je les ai beaucoup écoutés, et tout ce qu'ils m'ont dit était toujours très intéressant, parce qu'il y avait cet élan incroyable qui faisait qu'ils laissaient leur communauté d'origine, parfois leur pays, parfois leur famille. J'entends par là pas toujours partagé avec leur famille. La question de la conversion, notamment dans l'islam, est toujours problématique. Je les ai admirés de prendre ce risque-là, de se couper de leur univers naturel, parce qu'ils étaient appelés à quelque chose d'essentiel qui était de suivre le Christ.
Oui, dans votre livre, il y a la grand-mère Oumi qui ne prononce plus le nom de ceux qui ne sont pas restés dans l'islam.
Ben oui, Ben oui, 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 l'islam est un monde très, comment dirais-je, très structurant. La communauté a un rôle très très fort, et celui qui sort de la communauté, évidemment, la communauté se soude autour de lui et parfois contre lui. C'est un grave problème. Et donc, aux chrétiens d'être accueillants pour qu'il n'y ait pas le regret d'une communauté soit adouci par l'accueil d'une autre. Parce que si un converti est délaissé une communauté pour ne pas être accueilli dans une autre, ça c'est dramatique.
C'est grave,
donc
oui.
Un énorme enjeu d'accueil des nouveaux venus qui, encore une fois, ne ressemblent pas forcément aux catholiques de tradition classique.
Oui. Ils ne sont pas toujours français, d'ailleurs.
Ils ne sont pas toujours bien peignés. Ils ne sont pas toujours le modèle classique qu'on imagine dans les paroisses. Et pourtant, ce sont des gens qui ont un feu intérieur incroyable, parce que ce qu'ils ont reçu leur a changé leur vie. Ils ne sont pas contentés de le recevoir à la naissance. Ils ont fait ce chemin et il faut avoir beaucoup d'admiration pour eux, puis d'amitié pour eux. L'amitié doit jouer un grand rôle dans tout ça.
Oui, les âges, c'est tous les âges.
Tous les âges, oui. Tous les âges, les deux sexes, le milieu socio-professionnel. J'ai rencontré des gens qui avaient des métiers manuels très simples, et puis aussi des gens qui avaient des métiers intellectuels très, très brillants. Ça va du médecin à l'installateur de chauffage. Visiblement, la grâce tape sans discrimination, sans choisir. Et donc, on voit des gens vraiment d'horizons très différents, mais ils ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont rencontré le Christ et que ça a changé leur vie.
Ils sont obligés de se rencontrer, de vivre ensemble, au moins cette conversion, avant, quand ils sont catéchumènes.
Oui, 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 oui. Mais de rencontrer tous les catéchumènes, il n'y a pas un chemin spécial pour le catéchumène d'origine musulmane.
Oui,
il va rencontrer d'autres personnes qui ont tous une histoire différente, spectaculaire ou banale, d'ailleurs, qui fait qu'un jour, ils se sont dit j'ai envie de me faire baptiser, de rejoindre l'Église catholique.
Et c'est la fraternité qui se dégage là.
Ça doit être la fraternité, oui, en effet. Et ce qui est tout à fait fascinant pour un journaliste comme moi, c'est qu'on pourrait penser que l'Église catholique, aujourd'hui, véhicule une réputation qui est ternie par des tas de scandales, des tas d'histoires qui sont sorties.
Oui.
Ce qui est la vérité, et pourtant, tous ces convertis ne s'attachent pas du tout à ça. Soit qu'ils ne le savent pas.
Mais ce n'est pas possible. Le même plan.
Ça, exactement, ça ne les intéresse pas. Eux, ils ne rejoignent pas le père untel ou monseigneur truc. Ils ont rencontré le Christ. Et il n'y a que ça qui compte pour eux, à charge après pour l'Église, celle des clercs et celle des fidèles, de les accueillir encore une fois. Mais le point de départ, l'élan irrépressible, ce n'est pas de rejoindre une structure, c'est de rejoindre une personne qui est le Christ.
Oui.
Et ça, alors ça, c'est sans hésitation et tous les discours, les réfutations, les objections, les conseils de prudence, tout ça vole en éclats. Ils veulent aller au bout de leur démarche parce qu'ils ont rencontré le Christ.
C'est le Christ qui est là.
Le Christ qui est là, qui leur a fait découvrir l'amour, qui leur a fait découvrir la liberté aussi. Et ils sont extrêmement sensibles. Et donc, ils accourent vraiment vers le baptême.
Oui, mais pour les maghrébins, les musulmans, c'est très, très strict et carré.
C'est très légaliste.
Il y a des choses à faire,
les choses à ne pas faire.
Voilà.
Ce qui peut être pesant pour certains.
Qui est simple pour d'autres.
Et pour d'autres, très simple. Et c'est une force de l'islam de proposer un programme simple. On devient musulman en une minute, hein, pas en deux ans de formation. Il suffit de prononcer une phrase. Voilà, tout ça, ce sont des caractéristiques de l'islam qui pour les convertis, réalisent aussi ce que ça va pouvoir avoir d'insuffisant ou de très contraignant. Effectivement, le grand juridisme de l'islam qui peut devenir très, très pesant. Et avec la découverte du christianisme, découverte tout à fait une autre manière dans leur rapport avec Dieu.
L'amour balaye tout.
l'amour balaye tout, la miséricorde balaye tout. Et puis c'est une rencontre non pas avec un Dieu lointain et inaccessible, mais avec un Dieu fait homme assez proche.
Là, qui est là.
Et qui est là et qui les aime. Et c'est une révolution au sens propre du mot. C'est vrai, véritablement ouais. un bouleversement complet dont il témoigne avec beaucoup de... avec beaucoup de sensibilité, et entendre parler à un converti, quelque chose de très touchant.
Alors, Étienne de Montetti, l'émission se termine.
Déjà ?
Oui, 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 et je voulais vous remercier
Merci à vous
d'être venu.
De m'avoir invité.
Ça m'a fait très plaisir de vous connaître.
Merci.
Et vraiment, je vous remercie infiniment. Et puis, je remercie ma fidèle assistante et surtout Claudia qui sans qui nous ne sommes que très peu de choses.
Comme sans voix.
Alors, Claudia, merci, et je termine comme terminait Jean Christaki de Germain, que Dieu nous garde.
Merci.
Vous venez d'entendre le libre journal du Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge, assisté de Nathalie, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 3 mars 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie. 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.